Comme c'est arrivé la semaine dernière, où Michel avait pensé que j'allais faire la prédication, que j'avais fait la prédication avant même qu'il la commence, j'ai cru que Jacques allait vous faire la prédication avant que je la commence, parce que j'aimerais vous parler de ce dont il nous a parlé, le texte qu'il nous a lu, qui est Paul et Silas dans leur prison. Je vous invite donc à lire ce texte qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 16, des versets 16 à 34. On va essayer de trouver de la place pour tout. Voilà. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête, « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et il dit à l'Esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, ils se saisirent de Paul et de Silas. Ils les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et y portèrent plainte contre eux en ces termes « Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville ». Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous qui sommes romains n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Ouais, on ne voit pas très bien, mais sur la photo, il y avait des blocs de bois là. Ça, c'est un bout du pied qui sort. S'il fait sombre, hein, c'est le cachot le plus reculé. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et il allait se tuer, car il croyait que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête ! Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » C'est sûr que ça devait l'étonner, cet homme. Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?»« Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu, à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis, il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Donc j'aimerais revoir avec vous ce texte et faire une lecture un peu commentée de ce passage, et puis nous en extrairons une pensée et qu'on essaiera de voir un peu plus en détail. Donc il y a d'abord cette histoire de cet esclave qui est porteuse d'un esprit de divination. Et on peut se demander pourquoi Paul se met en colère. Cette esclave est porteuse d'un démon qui lui soufflait les bonnes réponses, les bonnes paroles. Puisqu'elle annonçait à tout le monde, ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Alors on peut se demander pourquoi Paul se met en colère, parce que il peut se dire, chic, il y a quelqu'un qui fait notre pub gratuite. Mais apparemment, ce démon ne faisait pas ça dans de bonnes intentions, mais dans l'intention de provoquer, ce qui va d'ailleurs se passer par la suite, c'est qu'on arrête Paul et Silas et qu'on les mette en prison. Quand il est question de nous au départ, il s'agit de Paul, de Silas et de Luc. Luc qui rédige les actes. Hein? Alors Paul se met en colère. C'est pas bien d'être en colère quand on est chrétien. Vous ne ferez jamais ça, vous. Hein? Vous ne mettez jamais en colère. Eh bien, moi, des fois, ça m'arrive. Et hélas, pas toujours pour des bons motifs. Je pense que Paul, il se met en colère pour de bons motifs, hein, parce qu'il ne veut pas de cette publicité-là qui vient du mal. Et comme Paul est rempli du Saint-Esprit, le démon quitte la femme. Alors, cette femme qui annonçait des vérités, elle était une attraction. On allait la voir, on lui donnait de l'argent, évidemment, que les maîtres récoltaient. Quand les maîtres se sont aperçus que la source était tarie, que leur pauvre esclave était devenu comme tout le monde, ils sont furieux. Et ils sont furieux au point de vouloir mettre Paul et Silas, d'abord de les faire battre et ensuite de les mettre en prison. Est-ce que vous avez remarqué combien dans ce passage on a manipulé facilement la foule ? Paul et Silas, qui proclamaient les vérités de Dieu dans cette ville, ils n'étaient pas des criminels. Ils n'étaient pas des malhonnêtes gens. Mais finalement, quand on arrive à enflammer une foule, elle perd tout contrôle. Moi qui commence à être un peu vieux, j'espérais que vous diriez mais non. Donc moi qui commence à être un peu vieux, j'ai vécu mes 68. Ah ben ça c'était, on en a parlé, hein, on en parle de nouveau d'ailleurs. Hein. Il y a une pièce de Shakespeare qui s'appelle « Beaucoup de bruit pour rien ». Parce que finalement, tous ces gens qui étaient dans la rue, ils ne savaient pas bien pourquoi ils y étaient. La preuve, c'est que si vous regardez l'état de la France en 69, 70, 71 et que vous regardez l'état de la Suisse ou de la Belgique, c'est exactement pareil. Ils n'ont pas eu mai 68 et bon, enfin, passons. On n'est pas là pour faire de la politique. Méfions-nous Méfions-nous de la foule. On nous manipule facilement. À ce propos, il y a un psaume, c'est même le premier, tout au début, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Alors, on voit que devant cette foule, les magistrats, ben, ils réagissent quand même un peu violemment, quoi. Ils leur font arracher leurs vêtements, battre, et puis battre roué de coups. Et puis, ils demandent aux geôliers de le mettre, de les mettre vraiment dans des conditions, ils les mettent dans les cachots les plus profonds avec des fers aux pieds. On se demande ce qu'on faisait aux criminels dans cette ville, hein. Parce que la peine paraît quand même lourde. Alors mettons-nous dans l'ambiance. Paul et Silas viennent d'être roués de coups. On les a mis au plus profond de la prison, dans un cachot, et encore avec des fers aux pieds. Si ça vous arrive un jour, où ça m'arrive un jour, eh bien, ça va être les lamentations de Jérémie. Hein. Enfin, ou de Jean-Pierre, en tout cas. Oh Seigneur, mais pourquoi il m'arrive une chose pareille? Mais aïe, j'ai mal là, ou j'ai mal lié, pourquoi? Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Dans leur prison, Paul et Silas, avec leurs fers aux pieds, non, c'était des bois, du bois aux pieds, leurs entraves, chantaient les louanges de Dieu. Il y a deux nuits, je me suis réveillé avec une grande douleur dans l'épaule. Toi, je compatis, Michel. Ben, je vais vous faire un aveu, hein. J'ai pas chanté les louanges du Seigneur au milieu de la nuit. J'ai plutôt chanté « aïe, 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 oui, 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 ça fait mal ». Comme quoi, il nous reste des progrès à faire. C'est ce que disaient toujours mes professeurs d'anglais, hein. Jusqu'à la fin, ils m'ont mis « peut mieux faire ». D'ailleurs, quand on m'entend parler anglais, on est d'accord, je pourrais... Il pourrait mieux faire. Hein? Et les autres prisonniers les écoutaient. Ça devait être quand même intéressant pour les autres prisonniers, mais en même temps un peu étonnant d'entendre ces gens battus de fraîchement battus qui chantaient les louanges de Dieu. Tellement intéressant que lorsque les portes sont ouvertes et que les chaînes de tout le monde sont tombées, pas seulement celles de Paul et Silas, ils sont restés là. Et Paul a pu dire au gardien, « Te fais pas de mal, nous sommes tous là !» Personne n'est parti. Alors on a vu la suite. La suite, c'est ce gardien qui d'abord veut se faire du mal, puis qui constate que tous ses prisonniers sont là, et qui finalement les fait sortir, enfin certains d'entre eux en tout cas, pour aller les soigner chez lui, avec cette question, que dois-je faire pour être sauvé? Et la réponse de Paul, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Et puis pas que toi, ta maison aussi, les tiens aussi, si tu fais pareil. Et ce baptême de ce gardien de prison qui a lieu au milieu de la nuit. Alors, j'aimerais voir ce que pratiquement on peut tirer de ce texte pour nous. D'abord, je vous l'ai dit, un petit point, méfions-nous de la foule. des opinions toutes faites. Prenons du temps pour réfléchir, pour méditer. On est victime de l'immédiateté dans notre société. On a une information, à peine elle est donnée, qu'elle circule sur les réseaux sociaux et elle prend de l'ampleur. Chacun dit son mot, tout ça, ça s'ajoute. Tout ça, souvent, ça fait du mal. Et personne n'a réfléchi. Prenons du temps. Nous avons, normalement, dans notre cœur, un contrepoison. Romains 12 dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Prenons le temps de réfléchir. Prenons le temps de laisser au Saint-Esprit nous guider lorsqu'il arrive un événement et qu'on nous dit « Voilà, il faut que tu penses ça. » Peut-être que c'est la bonne pensée, mais peut-être que c'est celle de notre monde et pas celle de notre Dieu. Voilà, ça c'était un point, mais je veux surtout vous parler de la louange. Pourquoi la louange ? Parce que moi, ce qui m'a interpellé dans ce texte, c'est la volonté de Paul et de Silas, au plus profond de la nuit, de la prison et de la souffrance, de continuer à louer leur Dieu. Alors, nous sommes tous appelés à la louange. C'est pour nous tous, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. La louange est l'expression de notre amour et de notre admiration pour Dieu. Psaume 33, « Vous qui êtes justes, louez l'Éternel. Il convient aux hommes droits, et je pense que c'est valable pour les femmes aussi, il convient aux hommes droits de le louer. » Et puis, la louange, c'est notre point de départ avec le Seigneur. Elle commence dès que nous appartenons au Seigneur. On peut même dire presque qu'elle conditionne le salut. Romains 10, « Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Je trouve très fort que ce verset inverse un peu ce qu'on pourrait penser. On pourrait dire, on croit d'abord, puis on va dire après. Mais ce verset souligne, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Donc la louange, c'est notre point de départ avec le Seigneur. C'est aussi notre avenir. Elle ne s'arrêtera jamais, jusque dans l'éternité. On a un chant qui dit « Je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer. » Apocalypse 5, verset 13, « Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je l'ai entendu qui disait, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. » Et puis la louange, c'est un chant d'amour. Un chant d'amour pour notre Dieu. C'est une façon de lui dire « je t'aime » et c'est important de lui dire « je t'aime ». Pourquoi c'est important de lui dire « je t'aime » ? 1er commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est important de dire à Dieu, je t'aime. Pas de lui dire « Ouais, t'es le plus fort, donc je me soumets parce que c'est toi qui as la puissance et moi je suis faible. » C'est pas ce que Dieu nous demande, ça. Bien sûr que c'est vrai qu'il est plus fort que nous. Mais ce qu'il nous demande, c'est notre amour. Et comment est-ce qu'on peut, nous, faibles, apporter quelque chose à celui qui a tout? En lui apportant la louange, en lui apportant la reconnaissance de notre cœur. La louange ne devrait pas être fonction des épreuves que nous traversons. Et Paul et Silas nous montrent que même dans le trou, ils louent l'Éternel. Et nous nous sommes invités à louer Dieu même lorsque nous sommes dans une chambre d'hôpital ou en proie à une maladie. J'ai eu le privilège, pendant plusieurs années, d'être le médecin traitant d'un groupe de religieuses, de vieilles dames qui avaient donné leur vie au Seigneur et qui habitaient à Pommiers. À l'époque, il y avait un monastère, on va dire, enfin, un centre de retraite pour des religieuses. Et j'ai été témoin de la façon dont ces dames qui avaient plus de 80 ans, qui étaient toutes plus ou moins malades, louaient le Seigneur, même dans la faiblesse. Nous sommes faibles, mais le Seigneur est fort, tout-puissant. Dans les moments de détresse, la louange nous permet de sortir de notre misère, nous permet de ne plus regarder à nos chaînes, mais de voir celui qui a le pouvoir de les faire tomber. Et puis la louange, c'est ce qu'il y a de plus beau à faire entendre à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La louange, c'est ce que nous devons faire entendre à ceux qui nous entourent. Parce que la louange, elle ne parle pas de nous, pauvres pécheurs, mais elle parle de notre Dieu. Et en plus, elle est surprenante dans notre monde. On voit qu'elle a scotché les autres prisonniers au temps de Paul et Silas. Leurs chaînes sont tombées, ils auraient pu se sauver. Ils sont restés, et ils sont restés parce que ce que disaient Paul et Silas dans leur louange les avait étonnés. La louange, c'est donc un témoignage. Rappelez-vous, la première évangélisation de l'Église. Vous rappelez? Il faut qu'on le lise. C'est le dimanche de Pentecôte aujourd'hui. Hein? On va quand même en parler un peu. Allez, acte 2, verset 1. Et la suite. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un violent coup de vent qui s'abattait sur eux et qui remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. En même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène. Eh bien, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de Crète et d'Arabie, et pourtant chacun de nous entend parler dans sa propre langue les choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Nous entendons dans notre propre langue les choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Et c'est ça qui les a scotchés, les gens. Ils étaient pleins de stupeur parce qu'ils entendaient les louanges qu'exprimaient les apôtres dans leur propre langue. Alors après, Pierre va leur expliquer ce qui se passe. Mais d'abord, le premier point d'accroche, c'est la louange. Et de nos jours, la louange peut surprendre et interpeller des personnes qui sont assoiffées d'autre chose que la pensée matérialiste de notre monde. Elle peut faire des miracles comme au temps de Paul. Elle peut bouleverser des cœurs, renverser des barrières, briser des chaînes. Alors, n'hésitons pas à louer notre Seigneur en toutes circonstances. Et même si ça surprend nos voisins, c'est tant mieux. Parce que si ça surprend nos voisins et qu'ils nous posent des questions, on pourra leur dire que c'est un acte d'amour vers eux. Parce que si nous avons le désir de faire connaître notre Seigneur à d'autres, c'est bien parce que nous les aimons. Et au passage, c'est le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment montrer plus d'amour à quelqu'un que de lui offrir la vie éternelle? On ne peut pas faire plus beau cadeau quand même, hein? Alors, n'hésitons pas à louer notre Seigneur en toutes circonstances. C'est pour cela qu'il nous a créés. C'est pour ça qu'il nous a aimés, qu'il nous a pardonnés, qu'il nous a adoptés comme ses enfants. C'est ce que Paul explique. Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 5. « Puisqu'il nous a aimés, parle de Dieu, il nous a destinés à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il a accordée en son Fils bien-aimé. » Je vous invite à chanter. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Le deuxième couplet dit « Proclamons sa gloire au cœur de la nuit ». Je vous invite à le faire maintenant et puis toute la semaine.